donc il s'est rire à la langue, à travers le prisme de Pierre Justin, qui a tout pour nous attirer là-dedans, une période réellement passionnante, 1897, 1939, des personnages secondaires très nombreux, et qui sont absolument des périodes passionnantes avec plein de bouleversements, des évolutions d'Aragon, du réalisme au réalisme socialiste, ces évolutions politiques avec son voyage en URSS qui a fait une conversion au communisme et qui a duré très longtemps, plus longtemps même que la vôtre, monsieur Jupin. Et cette conversion ne l'a pas empêché de faire une œuvre monumentale, du point de vue des chacun des meilleurs romans du XXe siècle et des poésies que nous avons tous lues et presque tous lues, mais tous entendues en tout cas, et que nous avons en tête. Donc je remercie Pierre Jupin, que je vais vous présenter très rapidement avant de lui passer la parole, d'avoir fait une œuvre aussi complète pour décrire cet homme. Le portrait qui est ici, celui d'un jeune homme soigneusement collumé et habillé, celui dont Elsa Triola et Elsa Triolé, pardonnez-moi, je suis très intimidé, comme vous voyez, à la noble assemblée. Elsa Triolé a dit, il était trop beau, ce qui ne signifie pas la même chose que dans les nouvelles générations. Maintenant, quand on dit trop beau, ça veut dire très beau. Pour elle, ça veut dire vraiment. C'était le simum. Bien, donc, merci de votre travail, parce que travail, il y a, en effet, c'est 1799 pages d'un poids de 1,190 kg. Représente un pesant de travail fantastique et qui n'est que la moitié de votre travail puisque ça va ici jusqu'à 1939. Pourquoi la coupure? C'est pas question de la guerre. La coupure est la suivante. Aragon a vécu 84 ans ou 85 ans et vous avez partagé ça exactement en deux, les 42 premières années de Aragon et vous avez donné au printemps les 43 années suivantes, une centaine de fêtes. Donc encore, c'était un travail absolument monumental, vu la quantité de documents que vous avez pu compulser. Tout ce qui est publié, les correspondances, et puis les bouts de papier retrouvés dans les archives, à tous les niveaux, et j'ai été absolument séduit par le fait que vous restituez à cette fille qui est un roman, sa qualité de roman. Bien, alors, M. Jupin, la première chose que j'ai aimée, c'est que votre personnalité dit quelque chose à beaucoup d'entre nous, en tout cas les gens de ma génération ont beaucoup entendu parler de vous, parce que les 30 années que vous avez passées au sein du PCS, ce n'est pas un grand négligeable, puisque vous avez fait partie des organismes centraux du PCF et que vous en avez été le porte-parole. Votre nom dit quelque chose à beaucoup de gens, mais tout le monde ne sait pas que vous avez été un élève de l'école normale supérieure et que vous avez à votre actif une dizaine de livres, dont le livre « Il attend moi de battre mon cœur ne s'est jamais, n'a jamais cessé, dans lequel je crois qu'il y a vos mémoires politiques et vos mémoires d'homme. Donc, M. Jupin, la première chose que je vous demanderai, c'est, malgré l'énorme travail documentaire que vous avez fait, il y a en plusieurs endroits, c'est très étrange, des choses dont vous dites, elles sont floues. Des choses dont vous dites, on ne sait pas, etc. Aragon est un cas particulier pour ça.
Mais c'est un vrai roman. Bon, ben c'est pas actuel. Je sais que notre temps est très limité de votre
aussi. J'ai voulu m'acquitter d'une dette à l'égard de cet homme, parce qu'il a joué un rôle dans ma vie que je dois pas du tout attendre quand j'étais jeune. J'avais le besoin d'aller plus loin, d'approfondir. D'autant qu'il a été un acteur de premier plan, et comme vous l'avez dit, un grand témoin exceptionnel qui a dit comme personne ce 20e siècle qui a été, il faut bien dire, à la fois beau, grand et terrible. Je crois que c'est bien d'évoquer mon appartenance au Parti communiste. Je siégeais au comité central du Parti communiste à côté d'Arles. Et nous parlions beaucoup en dehors de la session. Mirabeau n'est pas la propriété d'une idéologie ou d'un parti. Aragon appartient au patrimoine culturel de la France, pour ceux qui ont voulu l'appeler un destin français, et au-delà, au patrimoine culturel de l'humanité, qui est fait de tous, qui nous souvient. Nul mieux que lui n'a dit. Je n'ai jamais vu Aragon employer le mot culture au pluriel. Il y a une culture, et une seule, la culture humaine. Naturellement, les cultures sont nationales. Il y a des courants qui traversent les pays, qui traversent les différentes cultures. Mais l'idée d'Aragon, c'était que chaque culture différente apporte sa contribution à la culture humaine en général. Et je dois dire aussi qu'il n'acceptait pas le pluriel culture avec un S pour une autre raison. Il n'y avait pas, selon lui, une haute et une basse culture. Il ne devrait pas y avoir une culture pour l'élite et une culture pour le peuple. Et c'est pourquoi il nous enseignait toujours qu'il ne fallait pas dégrader la culture en inventant des espèces de sous-cultures médiocres, abusantes de populisme. C'est peut-être l'un des principaux enseignements que j'ai reçus de lui. Je peux vous raconter une anecdote pour détendre un peu l'atmosphère avant de répondre à toutes vos questions. La première connaissance que j'ai eue d'Aragon et de son nom, c'est en 1943. J'avais 13 ans, au lycée de Clermont-Ferrand. Les anciens Strasbourgeois connaissent mon mémoire, puisque l'université de Strasbourg était, comme on disait, repliée à Clermont-Ferrand, cathédrale, couleur de jour. Elle a écrit Aragon pendant la guerre. Et j'avais un professeur, dont j'ai appris ensuite qu'il était communiste parce qu'il a disparu par l'illégalité, qui avait eu entre les mains, par un professeur de l'université de Strasbourg, un exemplaire du grand recueil poétique d'Aragon pendant la guerre, le plus lu, le Crève-Cœur. Et il l'a montré à quelques élèves dont il était sûr, dont il était sûr des parents. J'étais ceux-là. J'ai vu ses mères. Pour moi, c'était une surprise absolue. Absolue. Pour moi, la poésie, c'était La Fontaine, Lamartine, Victor Hugo, peut-être Vigny et François Coppée. Voilà, une poésie avec des mots incroyables, terribles, qu'on n'avait jamais vu, et pas de ponctuation. Donc on était dérouté, saisi par la modernité. Et en même temps, j'ai eu le sentiment d'un secours, intuitivement, et je le retrouve en moi, d'avoir tout compris, d'avoir compris ce que ça voulait dire. Ces hommes debout dans la tourelle qui allaient affronter les combattants éclairés. Cette princesse du Moyen-Âge, qui est moins fabuleuse, Éléonore ou Aliénor d'Aquitaine, dont la romance se terminait par liberté, liberté chérie. J'avais compris qu'il y avait chez Aragon un appel à la liberté, un appel à la résistance à travers la voie littéraire. Je l'ai retrouvé à la Libération, parce que le jour de la Libération dans la ville de Clermont, les typographes de l'imprimerie qui appartenait au dénommé Pierre Halal ont imprimé 9 poèmes en destin d'Aragon et les ont reliés avec du papier bleu qui servait à couvrir les livres. Comme ça, ça a été diffusé parmi nous, c'est une expérience inoubliable. Mais je ne pensais pas qu'un jour je le rencontrais. À la fin de 1959, il était. Je n'étais pas déjà à l'époque, donc je ne peux pas le dire. Barreau était devenu ministre de la Culture, ministre d'État du Général de Gaulle et le Parti communiste. communiste avait envisagé, j'avais demandé, d'écrire un pamphlet qui serait appelé tout simplement anti-Malraux. J'ai dit, on m'a donné des documents, j'ai travaillé un peu, et puis j'ai dit, j'aimerais bien rencontrer Aragon, puisqu'avant la guerre, Malraux avait été avec Aragon, un des combattants pour l'esprit républicain, le Front populaire, la maison de la culture, etc. Aussitôt fait, Aragon, on se regarde chez Dieu. Et pendant 2 heures, il m'a bluffé en marchant dans mon arbre, c'est grand fuseau, et il m'a raconté toutes sortes de choses incroyables, extraordinaires, sur Gandhi, sur Staline, sur Malraux, et puis sur Elsa. Sur Elsa, j'ai eu le droit à la visite des 18 ans près d'Elsa, Manet, Matisse, etc., qui était un rituel obligatoire pour rentrer dans l'intimité du grand homme. Mais j'étais absolument bluffé. D'un coup, il me dit, faisant semblant, « Alors tu es venu pour... » Bon, je t'ai mis mon compliment, en quelques mots, naturellement, qui était tout à fait au courant de ce pour que je venais, d'autant plus celle d'être son grand ami Maurice Thorez, le secrétaire général du parti. Et puis, ma conscience, il me lâche. « Oui, mais tout de même, mon petit... » Il disait « mon petit » aux jeunes plus jeunes. Mon petit, n'oublie pas que nous fûmes sur les mêmes estrades. J'ai compris qu'il ne fallait pas écrire anti-Malraux, et c'est une casserole qui ne sera pas accrochée à ma biographie, merci à la commande, car j'aurais fait une pas un pamphlet étroit, sinistre, malvenu, même si on peut critiquer beaucoup de choses dans l'œuvre et dans l'action de Malraux. Toute sa vie, à travers des incidents comme ça, il a donné à moi-même et à beaucoup d'autres des conseils d'ouverture. Il disait, misons sur l'avenir. Un autre a dit, mais il avait une fois sur le cas, n'assumons pas l'avenir, ménageons l'avenir. Ne nous coupons pas de cette littérature, de cette culture qui est celle de la France et qui a sa diversité. Je vous salue ma France, il est écrit par un verre en droit. Que vous savez la France, où les blés et les seigles ne risqueraient de la diversité. Je n'étais capable de dire les heures passionnantes que j'avais passées avec ce livre qu'en parlant de la vie romanesque de d'Aragon, pardon, et de la qualité de témoin de M. Putain. Mais maintenant, vous avez senti qu'il y a autre chose. Le charme exerce un témoignage vivant comme le vôtre, n'est-ce pas? On l'a écouté pendant des heures. J'ai fait mon plaisir rapidement sur cette chose là pour revenir à cette question du malgré la précision de votre documentation, l'existence de choses que vous qualifiez de mouvement, de falsification, de choses qui font que, arrêtons à parler comme menteur, falot, ou voyant. Mais vous expliquez deux choses. Premièrement, qu'il y a un entrelacement d'histoire extrêmement complexe, l'histoire de l'international, du Parti communiste français, celle des souverainistes et des bretons, et d'autre part, le fait que ce n'est pas un côté superficiel des choses. Ok, c'est vraiment très très différent de ces questions. Je crois qu'il y a deux aspects du flou qui restent dans ce que je dis sur un rapport. Le premier aspect, c'est le flou pour l'établissement de certains faits concernant sa famille, sa résidence, d'autres, sa date même, et le lieu de sa naissance. Je ne suis pas sûr du tout qu'il est né à Paris. J'ai beaucoup d'années, c'est
la date et la vallée.
Plutôt du Toulon, à côté d'un héros, naturellement, ou plutôt le héros à côté d'un dieu. Non, je crois que, à partir des indices que je donne, des pistes que j'ouvre, sans pouvoir voir en plus, des généalogistes, des spécialistes avec un professionnalisme, vont éclairer dans les années qui viennent un certain nombre d'aspects. On va savoir aussi s'il descend réellement de l'Espion, sur les indicateurs de 14 ou quoi. J'ai un petit doute. Mais, Aragon détestait la bourgeoisie, il venait au nom des valeurs. L'argent, l'hypocrisie bourgeoise, et il a haï et méprisé tout ce qu'il a, il ne méprisait pas, haï toute sa vie. Par contre, la noblesse, chacun les noms, les dons sont
qui sait le terme de saumur, avec au milieu desquels vous allez voir au début du deuxième tome combattre dans la bataille de France. Alors ça, c'était des gens qui avaient de l'honneur, de la fidélité. C'est une spécificité même pour chevalier de ménage. Vous verrez, dans le deuxième tome, ils rencontrent le général de la Fantassier. Le communiste allemand. Il a reçu fastueusement le fastueux général. Il se parle, il se dit des choses secrètes. Et tout d'un coup, une espèce de trouble, il le confond avec le chevalier Jean de Leuil du Moyen-Âge, dont vous vous souvenez probablement qu'il a écrit une espèce de roman avancé. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous voyez mêler le merveilleux et le réel. Alors ça, c'est une des causes du flou. Une autre cause du flou, c'est celle que vous avez très pertinemment citée, c'est-à-dire que Aragon a, dans sa vie, opté avec hésitation pour telle solution, et notamment, après avoir choisi à l'âge de 30 ans, définitivement, jusqu'à son dernier souffle, l'adhésion au Parti communiste, à l'intérieur du parti et du mouvement communiste international, Aragon, d'ailleurs, qui avait un sens politique aigu, provenant de son père grand, donc de la grande table de la Troisième République, Aragon évalue les rapports de force. Il veut que les choses évoluent, que ce parti change, s'ouvre, combatte l'ouvriérisme, l'étroitesse. Mais il sait que si on se bat à l'intérieur, il y a des limites. Si on quitte le parti, on n'a aucune chance de peser sur lui. Il va donc aux limites en sachant chaque fois jusqu'où il faut ne pas aller trop loin. Et ça a donné parfois une image trouble. Les Bretoniens, ses amis en vrai breton, les trotskistes, disaient « il trahit, il est l'image du traître pour eux ». Ils n'ont pas la même démarche qu'Aragon, qui mènera sa vie juste à la fin. Tant qu'il mourra, c'est le cas au moment de l'écrasement de Tchécoslovaquie par les tanks et les parachutistes de Brejnev, c'est le cas dans d'autres époques. Je crois qu'il faut essayer de comprendre ces contradictions sévères au Aragon. Mais je vais plus loin. Il ne s'agit pas que de politique. Dans l'un de ces derniers plus bouleversants romans, La mise à mort, Aragon se dédouble. Il y a une dissociation de la personnalité. Deux personnages incarnant deux tendances en conflit l'un sur l'autre. Enfin, on n'est même pas tout à fait sûr qu'il le tue, parce que ça reste ouvert. Trouble. Aragon, dans ce roman, parle même de la pluralité de la personnalité. En cela, à mon avis, il est très moderne. Aragon n'est pas un homme tout d'une pièce. Le mettre en équation, le réduire à une formule, c'est la pire faute qu'un biographe pourrait faire. Alors évidemment, vous me direz, j'ai quelquefois la dent dure. C'est vrai. Mais c'est pas pour avoir la dent dure. C'est parce que j'ai regardé les archives, y compris des archives soviétiques, quelques-unes sont ouvertes et accessibles. On voit les nouveaux temps, oui, les contradictions d'Aragon, avec cependant toujours le même choix fondamental. Il faut changer la société. Il faut, comme disait Breton, changer la vie. Et pour ce faire, me disait-il, il faut une force. Il faut une force cohérente, permanente, construite. Et il voyait comme seule possibilité d'avoir cette force le mouvement communiste. Je lui ai dit, vois-tu mon petit, le Parti communiste a tous les défauts en question. Le Parti communiste a tous les défauts du côté. Et comme il avait du tour, il ajoutait, et même quelques autres. Mais c'est le seul parti qui peut changer. Il est mort avec cette conviction, même après la révélation du crime de Staline, même après l'invasion de Prague. On y arrivera dans cette ville. C'est dans sa tête le mythe d'Icare qu'il a lui-même évoqué. Mon dernier chapitre s'appellera La vieillesse d'Icare. Icare essaie de voler, il se casse la figure. Et finalement, l'homme, après maints essais, arrive à voler. On y arrivera un jour. Voilà quelle était l'idée d'Aragon. C'est-à-dire, porteur d'un espoir. Dans le roman inachevé, 1956, après les révélations sur le stalinisme, il a son rêve supérieur. On peut discuter, évidemment, mais qui est sa conviction intime, au plus fort de la nuit, j'entends le coq chanter.
Oui, mais vous avez dit qu'il avait réussi à ne pas aller trop loin, tout au moins
comprendre.
Mais en réalité, le lecteur de ce livre relit des textes dans lesquels il est vraiment allé trop loin de notre point de vue. Que par exemple, il chante la rééducation de l'homme par l'homme qui avait inventé le stalinisme avec le goulag et en disant par exemple, mais ça vaut bien le chantier pour aller de la mer Blanche
à la mer Blanche, c'est
ça, que quand je sors des actes d'un pire qu'on peut s'imaginer, c'était une nouvelle humanité qui était en train de naître, régénérée grâce à ces travaux-là. Et donc, ou alors lorsqu'il chante les vertébrés au milieu des murs, et qu'il en appelle à une nouvelle terreur.
Mais alors, le mot terreur nous éclaire. Évidemment, tous ces jeunes gens, à l'époque, on n'était pas encore au 150e anniversaire de la Révolution française, ils avaient été élevés dans l'esprit du jacobinisme, dans la Révolution française, et ils voyaient en Lénine un nouveau Robespierre ou Saint-Justin, donc c'est plutôt Saint-Just. Et il faut aussi que nous décodions ce que ça voulait dire. Pour lui, le PPU, c'était la police qui, comme la terreur à l'époque du comité de salut public, allait mettre les citoyens à la raison, assurer l'armement de l'Union soviétique face à l'Amérique d'Asie, etc. C'est un texte qui s'est pas trompé, qui sait. Mais beaucoup d'autres gens ont cru aussi dans ces mythes. Combien de Français, instituteurs par exemple, communistes ou non, ont exalté l'œuvre d'Anton Makarenko, l'éducation d'un nouvel homme dont nous savons aujourd'hui, c'était des écoles encadrées par la communiste politique pour, à partir de voyous, former des gens de l'appareil communiste, évidemment, qui étaient transformés, rééduqués, et au bien, et tout de même. Aragon n'a pas vu tout ça. Donc, d'autres n'ont pas vu. Aragon non plus. Et combien d'autres ça va poser une question sur l'être humain quand il peut à tout prix espérer. Est-ce que nous n'avons pas été des croyants? Nous avons vu les choses négatives et nous n'y avons pas cru. Nous étions plus scientifiques. Nous n'arrivions plus à croire nos yeux, à croire ce que nous voyons. Moi, j'ai vu des choses qui étaient négatives, enfin, un peu la photographie des bombes, et on se critique dans ma jeunesse. C'était objet militaire, tout était posé. Ça m'a étonné. Je me suis dit, bon, c'est les Russes, et puis ils ont eu Hitler, etc. Il aurait fallu creuser plus loin, mais. Nous voulions croire à tout prix. On s'est accroché dans ce monde terrible de l'avant-guerre, de l'hitlérisme, de la montée des fascismes, de la guerre d'Espagne, on va voir tout ce qu'on a eu, hein. La guerre des Turquies, puis la Deuxième Guerre mondiale avec ses horreurs, la Shoah, les camps, l'occupation israélienne en France, les Oradours, mais le Nord en Europe, les Tchèques ont remis des dizaines, les Russes des milliers. Nous avons vécu ce monde terrible, puis après la guerre froide, cet immense malheur que décrirait, nous sommes dans un monde terriblement, nous avons vécu dans un monde terriblement binaire, où il y avait du noir et du blanc, et il fallait choisir un côté de la barricade. Et progressivement, à grandir en moi, l'idée qu'il faut évidemment cesser de se comporter en croyant. Et qu'il faut aussi espérer et tout faire pour cela, que jamais les hommes en Europe ne retomberont dans un monde horriblement binaire, tragiquement binaire, et que nous ne connaîtrons plus cette situation terrible où il faut choisir, et c'est pas sûr qu'on y arrive. Et c'est pas sûr qu'on y arrive. Je vois quand même des choses où aussi on commence à nous mettre devant le noir et le blanc. Le blanc d'un côté, le noir de l'autre, vous voyez ce que je veux dire. C'est terrible. Je crois que, à mesure que j'ai pris l'estime, je me suis appelé à réfléchir et à résister. Et si Aragon nous avait légué avec ça, ce serait moi, je pense qu'il a pu faire le mieux pour l'intelligence. Je ne sais pas si je peux bien comprendre.
Je voudrais bien comprendre, mais ça pose quand même une question. Alors que l'opinion d'Aragon est restée fixe sur cet aspect effectivement politique, vous avez personnellement énormément évolué. Et des ouvertures, vous avez parlé du ténèbre blanc et noir, vous avez été capable de passer du rouge au vert, et ça vous le gagnez.
Oui, je ne dirais rien qu'il soit simplement vrai. D'autant plus que je suis un petit peu triste de l'évolution du Parti vert en France. Mais c'est une question immense, très complexe, nouvelle, car Aragon n'a pas présenté. Il faut dire qu'il n'a, sauf au moment de la destruction du quartier entier de Paris, au début.
Dans les beaux quartiers.
Non, autant plus tard, en 1970. Mais c'est pour même dans Paris, au début du 14e arrondissement, où il avait vécu sa propre maison, celui qui était avec Jeanne Prévert et bien d'autres. C'est la seule chose. Il n'a pas senti l'importance de cet affrontement de l'homme avec la nature qui vient étant un défi majeur. En fait, je te le dis donc, il que je crois. Et le communisme ne l'a pas vu du tout à l'époque. Mais le stalinisme, c'est une catégorie folle qui a pensé qu'on allait pouvoir déplacer les fleuves, changer les climats, faire pousser artificiellement des plantes. Vous verrez que je la chapitre dans le deuxième tome sur le fameux aéronome Lysenko, car on a défendu Mandicus. Lui qui avait une formation scientifique et biologique comme médecin, et un très bon conseiller du Parti communiste français, en défendant Lysenko au nom du rêve. Un poète de l'Empire d'Aragon qui écrivait dans les lettres françaises la chronique de cinéma sous le nom de Michel Cardinal, le grand poète Dostoïevski, m'a reçu au moment où j'ai écrit une très important, un homme adorable, finesse, et pourtant jamais trouvé dans les archives d'Aragon, un poème qu'Aragon n'a pas pu publier, où il disait grâce à Lysenko, il n'y aura plus besoin de dépenser des colorants pour les veines, parce qu'on ferait écraser des équipements, des boutons bleus, blancs, etc. C'était un bien rêve. C'était l'homme, maître et possesseur de nature, comme disait Descartes. Ça, Aragon aura donné tel PC dans un certain
nombre de la nature.
Il a défendu les pensées. Il a défendu les pensées staliniens dans la guerre. Alors son propre beau-frère, le général Primakov, était un des condamnés, il a été fusillé par Staline. Mais Aragon croit que c'est le comité de salut public qui a. Et même en 1939, dans les dernières années du livre, au moment où il va partir à la guerre à nouveau comme médecin militaire, il dit, heureusement que Staline a eu le courage de liquider un maréchal traître, le maréchal de Kaczynski. Il y croyait. Bon, il y a vraiment, moi je n'ai pas la compétence, mais je pense que nous sommes, je dois tenter un cœur de rigueur, je dois m'aider, je dois demander de philo, serait capable d'analyser la mémoire, d'analyser la croyance, le fidélisme. Et le fait que l'homme s'accroche à cette croyance comme une bouée pour continuer à espérer et à se battre face aux défis les plus barbares. Parce que Aragon était hanté par l'idée de la barbarie. Et la barbarie, c'était fasciste, c'était Hitler, c'était Nazi. Faut attention, je pense. Honnêtement, même ça. Aragon est le premier poète français qui a fait rentrer dans la langue française le mot Auschwitz. On a vu une suite sur ce qui se passait à Auschwitz, sans s'imaginer la Shoah, on imaginait une extermination, simplement, si je puis dire. Et il a écrit dans un poème en septembre 43, Auschwitz, au silence sanglant. Donc Aragon fait son choix, clairement, sur ces questions-là. Jamais il ne pourra le côté antisémite de certains procès qui ont été conduits dans les démocraties populaires après la guerre, ou par Staline, ou par les blouses blanches. Mais Aragon s'est trompé sur les procès qu'il a pris, pour des procès comme ceux de la Révolution française. Et ça, c'est grave, parce que si Aragon avait vu clair, peut-être qu'il serait détruit de voir clair. Mais 37, 38, 39. Et à Valmondi, il y a plein de choses face à Gilles, par exemple, qui commence à avoir une attitude très critique à l'égard du stalinisme. Il dit oui, mais c'est Staline qui a dû aller avec son armée en Espagne pour battre Franco. Qui va aider les Espagnols? Il faut faire son choix. On se retrouve dans ce système infernal qui a été celui de l'avant-guerre et de la guerre froide où il fallait choisir son camp. C'est difficile à comprendre pour nous d'ailleurs.
Vous avez parlé il y a un instant de la fascination d'un coup pour les grands hommes. À un moment dans le livre, vous parlez du panthéon aux grands hommes de la patrie reconnaissante. Et il y a un aspect d'analyse, au sens de cette analyse qui est intéressant, c'est un coup du roman familial d'Aragon. Vous avez parlé tout à l'heure du discours sur son lieu de naissance, sur sa date de naissance. Il y a eu aussi cette incroyable chose qu'il a vécu pendant 17 ou 18 ans en pensant que son parrain était son parrain, alors son père était, alors en pensant que son parrain était comme son parrain, alors qu'en fait il était son père, et que sa sœur était sa sœur, alors qu'elle était sa mère. N'est-ce pas? Ah, c'est incroyable!